il y a c'est un message qui est pas signé. Elle dit vraiment certains hommes ont un comportement dégoûtant. Ils préfèrent humilier par petites touches. Ils sont trop lâches pour rompre de façon cruelle en plus. Ne restez pas avec lui. Invitez un ou une amie pour un bon gueuleton pour votre anniversaire, dit ce message. Et puis il y a Cathy de Paris, elle dit « Tout mon soutien, mon réconfort, ce monsieur vous manque de respect, vous rend malheureuse, essayez de vous éloigner. Je vous souhaite un bon anniversaire quand même, dit Cathy. Il y aura peut-être des réactions, je vous garde encore quelques minutes après les infos. Ne raccrochez pas Adeline, d'accord ? À tout de suite. RTL. Vous écoutez RTL, il est minuit. 24 heures d'info avec Thomas Becker.
Après la mort d'une surveillante poignardée et tuée devant son collège de Nogent en Haute-Marne par un élève de 14 ans ce matin, le Premier ministre François Bayrou promet d'interdire la vente aux mineurs de tous les couteaux. Il veut élargir les interdictions à tous les types d'armes blanches. Annonce ce soir en direct sur le plateau de TF1. Le président de la République sur France 2 lui a emboîté le pas. On ne peut pas attendre, martèle-t-il. Le chef de l'État se donne quelques mois pour amorcer une mobilisation européenne sur le sujet. Pendant ce temps, la Marine Le Pen, elle reste sceptique sur les propositions du gouvernement et fait le constat que le port d'armes blanches déjà interdit ne fait pas suffisamment l'objet de procédures judiciaires. À l'étranger, le président américain Donald Trump assure que Los Angeles est envahi par des ennemis étrangers. À l'occasion d'un discours sur une base militaire, il somme les Européens d'agir contre, je cite, une immigration hors de contrôle. En plus de la garde nationale, il a mobilisé 700 Marines pour encadrer les manifestations en soutien aux sans-papiers qui sont déportés en masse. Le gouverneur démocrate de Californie demande à la justice de l'en empêcher, accusant Donald Trump de se comporter comme un tyran. Emmanuel Macron l'a confirmé, il se rendra dimanche en visite officielle au Groenland, ce territoire qui appartient au Danemark et convoité depuis de longs mois par Donald Trump. Le président français veut éviter toute prédation et menace. Le territoire est situé dans un passage stratégique et dispose de nombreuses ressources naturelles. En France, taxis et chauffeurs VTC vont se mobiliser très tôt ce mercredi. Les premiers protestent contre la nouvelle convention régissant les transports de malades. Les seconds dénoncent la flux massif de nouveaux chauffeurs VTC sur les plateformes. Méfiance si vous prenez l'avion, le gros du rassemblement est prévu près des deux aéroports parisiens. C'est officiel, l'attaquant français Ryan Cherki quitte l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Il s'engage jusqu'en 2030 avec les Anglais de Manchester City. Pep Guardiola, l'entraîneur, le voulait le plus tôt possible. Il va disputer la Coupe du Monde des clubs avec ses nouvelles couleurs. Prix du transfert, 42,5 millions d'euros, dont 6 de bonus et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Et toujours en football, le PSG retient les candidatures de Massy en Essonne et de Poissy dans les Yvelines pour construire un stade de 60 000 à 90 000 places, capacité bien plus élevée qu'au Parc des Princes, seulement 48 000, mais tous les projets d'agrandissement ayant été refusés. La météo de ce mercredi, encore une très belle journée ensoleillée après la dissipation des grisailles matinales qui seront présentes de la Bretagne aux Ardennes. Côté température, 20 à 27 degrés près de la Manche, jusqu'à 31 dans le reste de la moitié nord. Les maximales, 36 dans le sud, ce sera pour Bordeaux, Montauban, Agen et Cognac. Les courses, elles ont lieu à Caen aujourd'hui. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 5, le 6, le 4, le 3, le 2... Et le 13, l'outsider de RTL, le 13, Japloux Turgot.
RTL, 24 heures d'info.
Jusqu'à minuit 30,
parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
La nuit continue au fil de nos échanges. Voilà. Sur RTL 09 69 39 10 11. Si vous avez un chagrin, un bonheur, une question qui vous tourmente, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Mais tout de suite, nous revenons vite vers vous, Adeline, parce que ce soir, vous avez beaucoup de chagrin. C'était votre anniversaire. Et puis, anniversaire, c'est toujours un jour compliqué pour vous, parce que quand vous étiez enfant, on vous ne les souhaitait pas, vos anniversaires. Et aujourd'hui, nous parler un peu de l'attitude qu'a eu votre compagnon depuis 10 mois avec vous, et on peut dire qu'il n'a vraiment pas été attentionné. Alors, il y a encore beaucoup de messages qui sont arrivés. Écoutez-les bien, parce que, voyez, pour vous qui peut-être doutez de vous, il y a quelqu'un qui dit « Vous êtes trop touchante, Adeline. Vous n'avez pas besoin de cette relation qui me paraît tellement en deçà de votre valeur. Il est aigri, cet homme. Il vous déstabilise pour exister. Ce n'est pas un bon refuge pour vous. Il ne peut pas vous aider. » Paul, des réactions qui sont arrivées aussi,
oui.
Peut-être de soutien, de réconfort pour Adeline qui en a bien besoin.
Alors tout d'abord, il y a Jeanne-Marie qui vous souhaite un joyeux anniversaire. Elle dit « pleurez pas comme ça parce que moi je suis sensible et je pleure avec vous ». Voilà, donc elle vous souhaite un joyeux anniversaire, elle dit « cet homme est un goujat ». C'est un mot qui revient, goujat, hein, dans le message de Moon aussi.
Et encore, c'est gentil.
Oui, qui dit « vous ne méritez pas ce comportement, il vous rend trop triste, on ne doit pas pleurer à quelques mois du début d'une relation,
non.
Il est abject, passez à autre chose ». Il y a Catherine qui dit « oui, on va vers ce qu'on connaît, vous allez vers des gens qui vous maltraitent, quittez cet homme et vous ne serez plus si malheureuse, vous êtes adorable, et moi je vous souhaite de nombreux anniversaires mignons avec des personnes qui apprécient la jolie personne que vous êtes ». Nadège qui pose la question, est-ce que cet homme vous apporte vraiment quelque chose de positif? Est-ce que vous avez vraiment besoin de lui dans votre vie? C'est ce que demande Nadège. Il y a aussi le mot égoïste qui revient régulièrement. Hein. Claude qui dit, vous vivez avec un égoïste pur, vous devriez le quitter très vite. Vous avez tout mon soutien. Il y a Béné aussi qui dit, voilà, un égoïste qui ne mérite pas Adeline. Et la belle âme qui transparaît dans ses paroles. Et puis, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous faire, mais il y a Evelyne qui vous donne presque, en gros, en quelques étapes, le chemin à voir, c'est...
Oui.
Voilà, un, ne pas oublier qu'on n'a qu'une version de l'histoire du couple, celle de l'homme. Deux, cette femme est gentille et cet amant ne semble pas lui accorder la valeur qu'elle mérite. Trois, il n'a aucun pouvoir sur vous, vous ne lui devez rien. Quatre, il faut que vous pensiez à vous et pas s'impliquer dans son histoire à lui. Cinq, vous avez affaire à un goujat, même pas une fleur, un bisou pour votre anniversaire.
Non.
Là, vous commencez à voir les côtés moins jolis de cet amant. Six, vous méritez mieux que cet homme. Sept, qu'elle se sauve de cette relation qui semble annoncer une future emprise.
Ah bah c'est bien
voilà.
Dit, il faudrait noter, c'est étape par étape. Ça vous fait pleurer tous ces messages, mais j'espère pas de tristesse, mais peut-être un peu de consolation. Parfois, on lâche un peu et vous voyez, il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui vous soutiennent et qui vous disent que cette relation, elle vous rend malheureuse et ça n'est pas normal au bout de quelques mois de relation.
Je me posais beaucoup de questions, si c'était moi ou...
Non, non, c'est pas vous. C'est pas vous, Adeline.
Et si... Si c'est toutes ces personnes...
Oui.
Je voulais me parler ultérieurement. J'accepte que vous donnez mes coordonnées ou je sais pas comment on fait, mais j'ai tellement besoin de soutien.
Vous avez besoin de soutien.
Oui,
mais on pourra, si certaines personnes nous laissent leurs coordonnées, on vous les transmettra bien volontiers. Vous êtes un peu... Vous manquez de soutien autour de vous? Vous êtes un peu seule
Écoutez, quand on a une maman qui vous dit que vous n'existez pas, vous êtes décédée à la naissance, et un père qui vous dit « prouve que t'es ma fille », alors que je ressemble à toutes ses sœurs et me confond avec ses sœurs... J'ai pas tout ça.
De la famille, oui, j'ai compris, malheureusement. Mais aujourd'hui, dans votre vie, peut-être sur le plan amical ou social ou professionnel.
Mais je me bats sans cesse sur le plan social.
Oui.
Alors, je me bats parce que j'aime les animaux.
Oui.
Du coup, je suis partie d'associations pour la lutte contre les maltraitances, les abandons.
Oui, oui.
Et après, voilà, je... Pareil, enfin, je suis croyante et du coup je fais partie. Je vais à l'église, je fais partie de tout ça.
D'accord.
Quand je peux faire du bénévolat, parce que je suis pas comme cet homme. C'est pas l'argent qui compte.
Mais oui, vous avez d'autres valeurs. Oui.
Exactement.
Mais oui. Mais c'est pour ça qu'il vous.
C'est tellement plus beau.
Oui, mais vous avez raison. Et puis c'est bien, à travers ces associations pour la défense des animaux, vous pouvez comme ça rencontrer des gens aussi qui partagent cela. Et c'est peut-être avec eux que quand vous irez un petit peu mieux. Vous voyez, on n'est pas obligé de fêter aussi son anniversaire le jour même, mais ça serait bien que dans l'avenir, vous le fêtiez un peu, dire, voilà, même vous amenez une petite bouteille, un petit quelque chose, et dire, allez, aujourd'hui, voilà, ça me fait plaisir d'être ensemble. Et voyez, d'être avec des gens qui vont être heureux de partager ce moment-là avec vous. Mais oui. Franchement, là, je comprends, vous avez besoin de lâcher, ça vous a fait du bien de pleurer, mais homme, il ne mérite pas vos larmes.
Oui, en plus, enfin, à la base, c'est les parents qui doivent souhaiter l'anniversaire, quoi.
Mais bien sûr.
Du coup, j'ai pas bien connu sûr. Ça, du coup.
Oui, mais vous savez, c'est pour ça que c'est si douloureux, d'ailleurs, aussi, ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Ça réveille tout ça, tous ces...
Et là, cet homme, on a passé la journée ensemble, et j'ai pensé que... Oui, ouais, c'était une petite attention.
Oui, mais oui, c'est ça qui vous a fait beaucoup de mal, bien sûr. Mais vous savez, Adeline, quand on n'a pas eu la chance d'avoir des parents aimants, on peut après dans sa vie devenir pour soi ce bon parent. C'est-à-dire toujours prendre soin de cet enfant qui est là en nous, qui a besoin d'être aimé. Et vous pouvez vous prendre soin de vous et vous traiter avec beaucoup de douceur. Et voyez, même peut-être à la paroisse où vous allez, vous pourriez avoir un moment comme ça avec des personnes en disant « Voilà, ça me ferait du bien en ce moment, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de votre amitié ». Et vous rencontreriez un peu de douceur et de tendresse dont vous avez besoin.
Je sais pas faire ça. Je vais à la paroisse, mais c'est plutôt pour. Je prépare des baptêmes, des deuils, oui. Tout ça.
Oui.
Mais après, ensuite, j'adore beaucoup les animaux. Il y a un crématorium qui est ouvert dans ma ville. Et je sais pas si c'est nouveau, je sais pas, mais dans le crématorium. On prépare des petits, je vais pas dire une petite messe parce que c'est plutôt dû aux humains, mais une petite cérémonie, j'ai envie de dire, avant la crémation des animaux. Et oui. Du coup, moi qui est très sensible parce que depuis mon enfance, je vais vous dire, j'étais enfermée dans la cave ou j'étais enfermée dans la cour, il faisait noir, c'était l'hiver.
On avait assez
terre irlandais. Je me réfugiais dans la niche de cette terre irlandais pour qu'il me réchauffe. Et du coup, voilà, j'ai un lien très important avec les animaux.
Oui.
Et là, je vais
mais
au crématorium et je prépare une petite cérémonie avec les gens parce que...
Vous devez leur faire beaucoup de bien aux gens ont perdu leur animal et avec tout l'amour, toute la tendresse que vous avez de préparer cette cérémonie. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un comme vous dans ces moments-là. Donc, vous devez, mais bien sûr que c'est important. Et vous savez, toute cette douceur, tout cet amour que vous avez en vous, il faut aussi vous l'apporter à vous-même. Et puis, je suis sûre que autour de vous, il y a des gens qui certainement ils vous apprécient beaucoup, que ça soit dans les associations d'animaux, à la paroisse, qui n'imaginent pas quelle est votre histoire. Et si vous avez peur de vous effondrer en leur racontant. Vous n'êtes pas obligé, mais dire en ce moment, je traverse un moment difficile et j'aurai besoin de vous. Et je suis sûre qu'ils seraient heureux de vous prendre dans leurs bras. Et vous voyez, si on pouvait nous envoyer les vôtres ce soir, les nôtres, on vous embrasserait, on vous serrerait bien fort dans nos bras. Alors, séchez vos larmes, prenez soin de vous, et puis vous nous donnerez de vos nouvelles, d'accord, dans quelques temps.
Je suis tellement habituée à cacher tout ça que je.
Oui.
Je me cache chez moi et je me scarifie.
Ah oui. D'accord. Vous vous scarifiez. Comme quand vous étiez enfant. Non, il n'y a pas à avoir honte. C'est-à-dire que, oui, c'est une façon de faire sortir aussi toute cette souffrance qui est en vous. Mais... Ça serait bien, ça serait bien quand même que, peut-être l'avez-vous déjà fait, mais que vous voyez quelqu'un. Voyez,
je suis suivie par une psychologue et un psychiatre.
D'accord. Mais là, peut-être qu'il faudrait les... Enfin, moi, je vous conseille de les rappeler, Adeline, en disant que là, c'est très difficile. Et que, vous savez, souvent, la période de l'anniversaire, on reçoit beaucoup, on sait qu'à ce moment-là, pour certaines personnes, c'est très bouleversant. Et les anniversaires, c'est pas forcément une période heureuse, parce que c'est toute l'enfance qui ressurgit.
Surtout quand une mère vous dit que vous n'existez pas.
Oui, j'ai bien compris. Et vous voyez là... En fait, à nouveau, vous, votre mère, elle est là, elle est présente, vous lui donnez ce pouvoir-là. Mais vous existez, Adeline. Et vous avez une place dans le cœur de beaucoup de personnes. Vous existez, vous faites du bien aux autres. Vous faites du bien à ces animaux dont vous vous occupez. Vous faites du bien à la paroisse. Donc, les paroles de votre mère, il faut les laisser pour ce qu'elles sont. Et là, en revanche, moi, je vous invite à rappeler, voyez, demain... votre psychiatre ou votre psychologue en demandant un rendez-vous là, en disant là je traverse vraiment une période difficile, c'est la période de mon anniversaire, souvent ça passe hein, c'est une fois que l'anniversaire est passé, en général les gens vont mieux, mais voyez, pour pouvoir un peu évacuer tout ça et en parler, d'accord, vous leur passez un petit coup de fil là.
D'accord, je vous remercie,
je vous embrasse Adeline,
merci à tous les auditeurs qui ont répondu.
Ben oui, et qui pense bien merci. Fort à vous. Au revoir Adeline.
Au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
Yeah.
C'était super trempe à l'instant dans Parlons-nous.
Jusqu'à minuit 30, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Merci d'avoir laissé vos numéros de téléphone pour Adeline. Comptez sur nous pour les transmettre. Il y a Cathy, elle dit « Rapprochez-vous, Adeline, de gens aussi sensibles, gentils et généreux que vous. Et fuyez cet homme ingrat qui vous fait du mal. Vous avez assez souffert et vous méritez le meilleur. » Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Oula, il y a un haut-parleur là ou quelque chose.
Je l'enlève, attendez.
Ah oui, bon. Si vous pouviez, ça serait parfait.
Voilà, c'est bon.
Merci voilà. Beaucoup.
Voilà.
Vous vouliez nous parler du bénévolat, attirer oui. Un peu notre attention.
Voilà, voilà. Je voulais mettre un petit peu de fraîcheur dans ce monde de brut.
Oui.
Voilà. Donc moi je suis bénévole depuis que je suis à la retraite. Je suis à la retraite depuis 10 ans déjà.
D'accord, donc oui, ça fait déjà 10 ans que vous êtes bénévole.
Ça fait déjà 10 ans que je suis bénévole dans une association. C'est un centre social en fait.
Oui.
Et je m'occupe de plein de choses.
Oui.
De jeunes, en particulier de jeunes, oui, des jeunes, oui. Qui de la 6e à la 4e.
Et pour des devoirs, qu'est-ce que vous
voilà,
faites pour les aider?
C'est de l'aide aux devoirs, voilà.
Ah oui, d'accord.
Voilà. C'est un peu compliqué, là, en ce moment.
Ah bon, pourquoi? C'est la fin de l'année, ils sont plus...
Non, parce que les jeunes sont compliqués, c'est difficile.
Ah bon?
Oui.
Mais les vous jeunes... étiez professeur, vous?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais les jeunes sont vraiment compliqués. Alors qu'il y a 2 ans, ça se passait très bien. Et puis cette année, c'est vrai que c'est compliqué.
Ça dépend peut-être, oui, un peu des groupes que vous avez.
Ça vient peut-être de mon âge, je ne sais pas. Non, je ne trouve pas que ça vient de mon âge, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont... ils connaissent pas bonjour, merci, au revoir, voilà. Et les bases de l'éducation, voilà.
Ah oui, mais en même
après,
temps...
Après, je me dis, bon, c'est pas de leur faute à eux, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués, voilà.
Oui, c'est-à-dire que, oui, les bases, justement, après, ça on les intègre et on les apprend petits, et après, c'est naturel de dire merci,
ça,
bonjour,
enfin,
on n'y pense même plus. Si, bien sûr, mais c'est
non, mais c'est naturel, on fait... Voilà, oui. Alors que eux, ils savent pas, ils connaissent pas. Oui. Ils ont pas envie de travailler non plus, ils sont...
Mais ils sont là, quand même.
Ils sont là, oui.
Ils sont là, quand même.
Oui. Oui.
Mais
oui.
Peut-être que aussi à travers le lien que vous créez avec eux, il y a des éléments qui peuvent passer.
Déjà, c'est du lien social, voilà, oui.
Alors, comment vous vous êtes tournée vers justement cette activité? Parce que c'est peut-être vous qui vous lassez un peu aussi, ça peut jouer, c'est-à-dire que...
Non, c'est parce que j'avais peur de m'ennuyer à la retraite, donc je me suis dit, il faut que je fasse du bénévole. Enfin, j'avais envie de faire du bénévolat.
Oui, je comprends, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de bénévolat, peut-être que ça fait 10 ans que vous faites dans ce
oui,
centre.
Oui, mais je ne fais pas que ça, hein.
Oui, non, mais je me permets de vous poser la question parce que vous dites peut-être c'est vous, peut-être qu'il y a un moment vous avez fait le tour, peut-être que vous auriez besoin vous aussi un peu de renouveau, de voyez, on peut.
Non, mais dans cette association, je ne fais pas que ça.
Ah bon, d'accord.
Voilà, je m'occupe aussi, je fais partie d'un groupe qui passe des films, je fais partie d'un groupe qui écrit des lettres de fin, pour les habitants.
Oui.
Voilà, je fais partie de plein de groupes comme ça.
D'accord.
Mais bon, moi, là, je voulais vous parler des jeunes parce que c'est vrai que c'est. Ça m'a ennuyée un peu parce que je me disais. Par contre, voilà, je voulais vous dire aussi, je fais aussi je m'occupe aussi des enfants. C'est des enfants. Qui sont en CM2 et qui vont passer en 6e.
Ah oui, année
donc
importante.
On appelle ça la passerelle.
Ah d'accord, donc, et alors ça consiste en quoi?
Ben ça consiste en à leur apprendre, leur demander ce qui les inquiète de passer en sixième.
Ah oui, d'accord, c'est un peu le groupe de parole, un espace de parole rassuré, anticipé.
Ouais, non, mais on fait des jeux autour de ça. Mm-hmm. Et puis, on s'aperçoit que les gosses, ils sont très très inquiets par
on peut comprendre, hein.
Tout ce qu'on entend là.
Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui revient le plus souvent parmi les peurs?
Ce qui leur fait peur le plus, c'est le fait d'être, je sais pas comment on appelle ça, harcelé. D'être ennuyé, d'être harcelé, voilà. C'est ce qui ressort le plus. Et surtout les filles, vis-à-vis des garçons, elles ont peur d'être harcelées. Donc on leur apprend, on fait des jeux autour de ça, et puis on leur apprend à essayer de pas trop avoir peur, de voilà.
Oui, quand on se prépare et qu'on anticipe. Voilà, ouais, Vous avez des intervenants extérieurs parfois qui
non,
justement parlent.
Non, on n'a pas trop. Non.
Non.
Moi, je suis avec. On travaille dans mon centre social. On travaille avec un salarié et un bénévole. Donc moi, je travaille avec un salarié et c'est vrai que c'est intéressant.
Oui, ben oui, oui.
Et voilà.
Vous y consacrez combien de temps par semaine alors? Parce que
beaucoup.
Ah oui.
Oui.
Ah oui, à peu près. C'est-à-dire.
Demain, par exemple, je suis prise de 14h à 18h.
Ah oui.
Et en général, c'est comme ça, pratiquement pas tous les jours, mais.
Ah oui.
C'est 3-4 jours par semaine, oui.
Ah oui, parce qu'on en parlait hier avec Céline, que j'embrasse si elle écoute, qui souffrait un peu de solitude, ouais. Qui faisait du jardin, et qui disait, oui, mais dans le bénévolat, ils demandent, ils sollicitent beaucoup, souvent, enfin. Et c'est vrai que les bénévoles, c'est un peu en baisse, hein, je crois. C'est dans les associations, certaines disent, voilà, recrutent des bénévoles.
Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça fait du bien à nous qui, quand on vieillit, ça nous fait du bien de voir...
Puis de rester en contact avec des jeunes aussi, ça permet, même si c'est fatigant, certainement que c'est stimulant aussi.
Mais bon, c'est pas le problème, le fait c'est qu'on sait que on est bénévole.
Oui.
Si on n'arrive pas à y aller, on sait qu'on ne peut pas y aller.
Mais vous, franchement, si vous y allez 3 ou 4 fois par semaine, vous n'avez pas de culpabilité à avoir, ma chère Marie. Bravo, ce que vous faites. Vous êtes formidable. Pardon, on aurait aimé vous entendre davantage, mais on arrive à la fin de l'émission. Hein. Je dois rendre l'antenne. En tout cas, bravo. Et, et pour ce que vous faites et de l'avoir partagé avec nous. Au revoir, Marie. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup pour tous ces récits, pour tous ces échanges, souvent poignants. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et passez une très belle nuit. À ce soir.
RTL. Entrez dans l'histoire.
Avec Laurent Deutsch, la rediffusion.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Pierre Loti. Pierre Loti, un nom qui figure bien loti justement sur les rangées poussiéreuses des bibliothèques de nos grands-parents. Sur la tranche écornée d'un livre aux pages jaunies se dessine un titre célèbre, Pêcheur d'Islande. Mais qui se souvient de Mon frère Yves ou de Ramuncho, des hymnes d'amour à la Bretagne et au Pays Basque? Qui se rappelle aujourd'hui que la production littéraire de Pierre Loti a été largement consacrée à l'Orient, particulièrement à la Turquie, lointaine, mystérieuse et envoûtante? Pierre Loti a été une gloire de son temps. Il a fait les délices de générations de lecteurs avec ses récits vifs et colorés. Il a eu plusieurs vies, aussi contrastées que brillantes. Capitaine de vaisseau, grand croix de la Légion d'honneur, académicien, avec des obsèques nationales pour finir en grande pompe. Pierre Loti. Vous l'imaginez peut-être en vieillard barbichu sorti tout droit de la naphtaline? Eh bien les amis, c'est tout le contraire qui nous attend. Impertinent, extravagant, provocateur, mais aussi créateur génial d'univers entremêlant le réalisme et l'exotisme, Pierre Loti est définitivement une figure atypique, excentrique, et inimitable. Un jour, il a écrit « J'ai pour règle de conduite de faire tout ce qu'il me plaît, en dépit de toute moralité, de toute convention sociale. » Alors, pour mieux découvrir cet homme intrigant, je vous invite à pousser la porte de sa maison à Rochefort. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Sans plus attendre, entrons dans l'histoire de Pierre Loti sur RTL. Nous sommes un jour de juin 2025 à Rochefort, sur les bords de la Charente, à deux pas de la Corderie Royale. Rue Pierre Loti, une rue calme située au cœur de la ville, les échafaudages ont enfin disparu. Voici des années qu'une maison à l'allure tranquille, d'apparence militaire, s'y refaisait une beauté. Rien de tapageur à première vue. Pourtant, ceux qui en ont jadis poussé la porte n'ont jamais oublié la visite. Pierre Loti en a été le célèbre propriétaire. Sa demeure a reçu le label « Maison des illustres ». Une demeure à son image. Austère à l'extérieur, délirante de fantaisie à l'intérieur. Venez avec moi, poussons la porte et laissons-nous émerveiller. À l'extérieur, c'est une façade blanche comme la lumière d'été. Des pierres nettoyées, poncées, taillées par dizaines. De nouvelles huisseries, des plafonds adaptés aux normes de notre temps. Des gargouilles réapparues, un encorbellement ressuscité. Il a fallu 12 années pour redonner vie à une maison unique au monde. Celle d'un grand voyageur qui a accompli la prouesse de recréer des univers lointains dans le cadre feutré de sa maison rochefortaise, la maison natale qu'il a habité toute sa vie. Loti est un nostalgique. Pour conjurer le temps qui passe, il reconstitue des lieux qu'il a aimés. Il en a les moyens financiers, il en a le temps, et surtout, il en a la passion. Pendant plus de 20 ans, il a acheté plafonds et boiseries, carreaux de céramique, colonnes de marbre, cheminées, tentures et mobilier ancien. Il a recréé à la perfection les univers qu'il aime et dans lesquels il veut vivre et rêver. Pour recréer cette maison enchantée, il a convoqué tous les métiers d'art. Menuisier, ébéniste ou maître en plâtrerie, tous ont été ses passeurs d'histoire. Aujourd'hui, ce sont 34 corps de métier qui se sont mis à l'ouvrage pour reconstituer la maison telle qu'elle était en 1923, à la mort de son illustre propriétaire. Quelle aventure, les amis! Quel voyage! En plein Rochefort! Sitôt poussée la porte qui donne sur la rue, nous voici dans le salon rouge qui jouxte le salon bleu. Deux pièces bourgeoises du 19e siècle qu'on traverse rapidement. Quelques mètres plus loin, c'est retour vers le futur qui nous attend. Comme par enchantement, on se retrouve dans une salle Renaissance qui nous ramène au temps des châteaux de la Loire. Le premier étonnement passé, on prend la direction du premier étage et l'on tombe cette fois sur une salle gothique. C'est là que pour son inauguration en 1888, Loti organisa un dîner Louis XI, avec obligation pour les convives de venir habillés en tenue d'époque et de parler en vieux François. Le deuxième étage s'ouvre sur un ailleurs exotique qui nous entraîne de surprise en surprise. L'Orient des mille et une nuits est là, sous nos yeux, dans la ville de Rochefort. Il faut dire que Loti a profité de son métier de marin pour ramener des objets et des bibelots des terres lointaines qu'il visitait. Il a rapporté des tissus et des faïences qu'il a installés dans les décors féeriques du salon turc, de la chambre arabe et de la chambre des momies. Mais le clou de la visite, c'est la mosquée. Oui, oui, une mosquée. Une mosquée grandeur nature. Mais une mosquée du 16e siècle, avec ses colonnes et ses murs couverts de mosaïques. Je l'ai faite avec des faïences d'une mosquée de Damas qu'on démolissait et dont j'ai acheté tous les débris. D'honnêtes contrebandiers m'ont apporté mes faïences jusqu'à Rochefort pour une rémunération grotesque. C'est ce qu'a raconté Loti. Quant à la vasque de pierre, faite pour les ablutions rituelles des musulmans, ce sont des artisans de Rochefort qui l'ont fabriquée d'après un modèle syrien. Pour réaliser cet ensemble prodigieux, Pierre Loti a acheté la maison mitoyenne de la sienne. Mais la perfection n'étant pas de ce monde, Pierre Loti reconnaît lui-même quelques irrégularités. Cette maison est orientée nord-sud, en sorte que je n'ai pas pu placer mon mihrab exactement face à la Mecque. Et vous savez que je ne crois pas en Dieu, mais cette faute rituelle me gêne tout de même pour faire mes prières. Étonnant ce Loti. Il nous reste une pièce à découvrir. Et pas des moindres. C'est la chambre de Pierre Loti. Et là, c'est encore la surprise générale, car c'est dans une cellule monacale qu'on pénètre. Décidément, lui qui croyait pas en Dieu, il dormait comme un moine. Un lit en fer, simple et étroit comme une couchette de navire, avec au mur un crucifix et une image pieuse. Là encore, Loti est tout entier dans ses oppositions, pour ne pas dire ses paradoxes. Sa maison a été ouverte au public de 1973 à 2012, avant d'être livrée aux bons soins des restaurateurs du patrimoine, jusqu'à ce jour de 2025 où elle retrouve enfin les visiteurs. Alors les amis, après avoir ainsi fait le tour du propriétaire, il est temps de faire plus ample connaissance avec le propriétaire en personne. L'inattendu Pierre Loti, ou plutôt, là encore une surprise, Julien Viaud, de son vrai nom. Julien Viaud naît le 14 janvier 1850 au 141 de la rue Saint-Pierre à Rochefort. Il est le benjamin d'une famille bourgeoise dont le père est secrétaire en chef de la mairie de la ville. Il reçoit une éducation qu'il qualifiera plus tard d'austèrement religieuse. Il faut dire que son père, Théodore, s'est converti au protestantisme en épousant sa mère, Nadine Texier. Julien est donc élevé dans une institution religieuse où il se plaît, visiblement, puisqu'il envisage un temps de devenir pasteur. À cette époque, son ailleurs, son asile, son île, c'est l'île d'Oléron, où il rend visite à ses grands-mères lors des vacances d'été. C'est son frère aîné, médecin de marine embarquée, qui lui donne envie d'aller plus loin, de partir au-delà des mers. En plus, à Rochefort, la tentation est grande de prendre le large. Écoutez-le. Oh, ce qu'il avait de troublant et de magique dans mon enfance, le mot de colonie. Mot qui désignait pour moi l'ensemble des pays chauds avec leurs palmiers, leurs bêtes, leurs aventures. C'est décidé, Julien sera marin. À 13 ans, sa vocation est là et elle ne le quittera pas. Julien est reçu à l'école navale en 1867. Il suit sa formation à bord du Borda, le navire-école stationné en pleine rade de Brest. À l'époque, on pense qu'il est bon de former les futurs officiers de marine à bord d'un bateau où ils vivent et étudient. 2 ans plus tard, ça y est, c'est l'appel du grand large. Julien Viaud embarque pour un premier voyage en Méditerranée, direction Alger. Puis, ce sera Dakar, l'île de Pâques, Tahiti, tous les rêves de son enfance prennent forme. Et pour en conserver l'éclat, pour que sa mémoire conserve la trace des lieux qu'il sillonne, il dessine, il prend des notes, il consigne, il raconte tout ce qu'il voit. Des dessins nous sont parvenus. Les peaux rouges d'Halifax au Canada, un caravansérail à Marmaris en Turquie, le roi Mohamed Diop de Dakar, les sorciers du Sénégal, les femmes de l'île de Gorée, l'île de la Désolation au large de la Terre de Feu. Tout l'inspire, tout le charme, le monde est à sa portée et il veut le croquer à pleines dents. À Tahiti, la reine Pomare, dont la célébrité est alors légendaire, le reçoit et lui donne le surnom de Loti. C'est ainsi que là-bas, on nomme le laurier rose. Loti a 22 ans et c'est le plus heureux des hommes. À Tahiti, il écrit déjà qu'il a réalisé le rêve de son enfance. Il songe maintenant à se faire romancier, sans pour autant négliger son métier d'officier de marine qu'il prend très au sérieux. Et pendant qu'il fait carrière au sein de la marine nationale, notre commandant Julien Viaud vit en parallèle une existence beaucoup plus fantasque. Il a 26 ans lorsque son bateau fait escale dans une Turquie ottomane qui ignore encore tout de la modernité. À Salonique, Il fait la rencontre d'une jeune femme de 18 ans, Asiadeh, qui vit dans le harem d'un vieux turc. Par l'entremise d'une servante, l'officier français emmène Asiadeh passer la nuit sur le Bosphore, sur une barque, pour que le romantisme soit à son comble. Le jeune homme exulte. Enivré d'amour et tout trempé de la rosée du matin, nous goûtons les charmes enivrants de l'impossible. Et en effet, cette romance durera le temps de l'escale, car un jour, il faut bien lever l'ancre. Loti songe alors à demander la nationalité turque, mais il se ressaisit. Pour lui, il ne s'agit que d'une amourette à la turque. Alors que pour Asiadeh... Mais n'en disons pas plus. On risque de tout abîmer et surtout, on écrit beaucoup moins bien que Pierre Loti. Car cette belle et triste histoire paraîtra en 1879 dans le premier roman de Pierre Loti. Et comme il l'a dit lui-même, j'y ai mis toute mon âme. Mon âme en déroute et prise des premiers vertiges mortels. Ce roman, paru une première fois sous couvert d'anonymat pour ne pas nuire à sa carrière d'officier, est, comme il le dit, constitué de fragments de sa vie intime. À moins que tout ne soit totalement inventé. Toute sa vie, Pierre Loti a aimé brouiller les pistes. En témoignent ses nouvelles aventures. Car 2 ans plus tard, il écrit le roman d'un spahi, l'histoire d'un cavalier de l'armée d'Afrique qui vit une idylle avec une jeune femme noire de Saint-Louis du Sénégal. Une fiction, cette fois-ci. En 1885, Loti découvre le Japon. Il y trouve matière à écrire Madame Chrysanthème, qui va connaître un immense succès au point de devenir un opéra. Arrêtons-nous un instant sur ce roman pour y retrouver quelques souvenirs de Pierre Loti. À peine débarqué à Nagasaki de la corvette La Triomphante, Loti a fait la connaissance d'une jeune japonaise de 18 ans qu'il épouse par contrat d'un mois renouvelable. Sa japonaise, il la baptise Madame Chrysanthème. Ensemble, le couple improvisé va vivre un mois de délices. Rien d'illégal ni d'amoral à cela, la pratique était courante dans le Japon d'alors. Cela rapportait même un peu d'argent aux parents de la jeune femme qui a pu, sans aucune difficulté, se marier par la suite avec un Japonais. Comme vous pouvez l'imaginer, pour le public français, cela va donner un roman épicé à souhait. L'orientalisme en plus est à la mode et Loti en devient l'un des plus brillants représentants. Si l'exotisme et les ailleurs, tous les ailleurs d'ailleurs, l'enchantent, eh bien c'est quand même la civilisation arabo-musulmane qui séduit le plus Pierre Loti. Une fascination qui ira même jusqu'à l'élan mystique. Dans Les Trois Dames de la Casbah, il écrit « Elles avaient vu la Mecque et le voile vert de la Sainte Casbah sur lequel le Coran tout entier était brodé en lettres d'argent par la main des anges. » Il rajoute même « L'Orient a encore du charme. Il est resté plus oriental qu'on ne le pense. J'ai fait ce tour de force d'apprendre en 2 mois la langue turque et désormais je porte fez et kaftan. » Alors, lorsqu'il rentre à Rochefort les malles pleines de souvenirs, il recrée dans sa maison familiale les univers qu'il aime. Et il pose en tenues orientales pour les photographes dans son salon turc ou dans sa pagode japonaise. Un jour en Osiris, une autre fois en mandarin, parfois même dénudé, Pierre Loti arborait 1001 visages, au point de se perdre parfois dans ses songes. Il paraît que sa grande amie Sarah Bernard l'appelait Pierrot le Fou. Et pourtant, en matière d'excentricité, la dame en connaissait un rayon, elle aussi. Comme toujours chez Pierre Loti, le décor a valeur de personnage. Alors, lorsqu'il quitte l'Orient pour raconter une histoire d'amour en Bretagne, il reprend les recettes qui font son succès. Dans Pêcheur d'Islande, il raconte l'histoire d'amour impossible entre une jeune bretonne et un marin-pêcheur de Paimpol qui embarque pour les eaux glacées des côtes islandaises. L'amour contrarié, un cadre fantasmagorique à la blancheur opaline presque palpable, le temps qui s'écoule irrémédiablement. Ce roman est un enchantement. Pierre Loti semble pouvoir tout ressentir et tout retranscrire magnifiquement avec sa plume. Mais derrière l'image de cet homme heureux et accompli, se cache une personnalité plus secrète, empreinte de gravité. À 41 ans, Pierre Loti est élu à l'Académie française, au fauteuil numéro 13, celui de Jean Racine. À cette occasion, il bat même Émile Zola, candidat tout comme lui. Le 6 mai 1892, il est donc reçu sous la coupole, mais son premier discours a été un jeu perpétuel. Ah oui, ce jour-là, Loti s'en est donné à cœur joie, allant jusqu'à déclarer à ses immortels confrères qu'il ne lisait jamais. Imaginez le tollé sous la coupole. Quelle extravagance! Mais en même temps, depuis 5 ans, Pierre Loti est sagement marié, bourgeoisement, avec Blanche Franc de Ferrières, une jeune femme du Bordelais qui lui donnera en 1889 un fils, Samuel. Mais Pierre Loti aime l'aventure plus que sa propre famille. Alors, lorsqu'il prend le commandement du bateau Le Javelot, basé à Hendaye, il devient plus basque que les Basques. Dans ce pays à l'identité si forte, il ressent à nouveau le souffle de la liberté. Il joue à la pala, porte des habits traditionnels et rêve d'une descendance basque. Un peu plus tard, il tombe évidemment amoureux d'une femme basque, Cruz Genza, qui l'emmène avec lui à Rochefort. Le roman Ramuncho et Trois fils illégitimes vont naître de sa passion pour le Pays basque. Celle qu'il appelle Cruchita s'installe dans une modeste maison sans étage d'un faubourg de Rochefort. Les garçons ne porteront jamais le nom de leur père, mais Loti ne cachera pas leur existence à son entourage. De toute façon, ça fait longtemps qu'il se moque du candidat-on. En 1921, il est élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Un an et demi plus tard, il repart une dernière fois pour son cher Pays basque. Mais une semaine seulement après son arrivée, il meurt à Hendaye, le 10 juin 1923. C'est à la fois le marin et l'homme de lettres qu'on honorera avec des obsèques nationales qui le conduiront au petit cimetière de Saint-Pierre-d'Oléron, cette île chère à son cœur, cet asile où il allait enfant passer l'été et rêver de toutes ces terres inconnues et lointaines dont il a fait sa réalité.
Merci d'avoir écouté Entrer dans l'Histoire. Retrouvez Laurent Deutsch du lundi au vendredi de 15h à 15h30. Dans un instant, retrouvez Laurent Gérard sur RTL.
Y a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, Italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Danger, plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Feel good. Comme un sur ma taille, on se met dans le taxi.
Gérard, la rediff sur RTL.
Et c'est l'heure de retrouver Mademoiselle Jade et Laurent Gérard. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Thomas, Amandine, bonjour tout le monde. Il est l'invité de toutes les chaînes d'information. Nous sommes ravis de l'accueillir dans cette matinale. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a bien voulu nous donner son sentiment sur la situation politique.
Bon, maintenant, il faut arrêter les salades. Les gens, ils sont pas dupes. Je les vois, moi, tous les matins au café en bas de chez moi. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir d'achat. Le calva, 2,50€. Le petit verre de calva du matin, c'est pas tenable. Surtout pour une famille.
Quand même pas que ça dans les revendications des classes populaires.
Évidemment qu'il n'y a pas que ça. Vous savez à combien il est le pastis dans mon café en bas de chez moi ? 3,90€.
Ouais.
Et la Suze, 5€ la Suze.
Ouais.
Et maintenant à Bruxelles, ils veulent nous imposer un supplément olive et cacahuètes. Non mais on marche sur la tête. Alors les gens, ils sont pas dupes. La guerre en Ukraine, Poutine, tout ça, ça a bien 5 minutes.
Le Hellfest, le plus grand festival de France dédié, rappelons-le, à la musique métal, se tiendra à Clisson, en Loire-Atlantique. Bonjour Philippe Manœuvre.
Hello Miss Jade, le Hellfest, c'est The Festival de la métal musique, le Woodstock des chevelus, la grande kermesse du cheveu gras, avec chaque année 200 groupes, 400 000 entrées payantes, 800 000 litres de bière qui sont ensuite pissés ou vomis dans 500 toilettes préfabriquées, 1500 comas éthyliques et 25 000 tympans crevés. Amazing!
D'accord, vous y allez Philippe?
Of course, j'y serai comme chaque année avec Tonton Zégut. Et cette année, on amène Louis Baudin et François Langlais avec nous. On va leur faire pousser les cheveux. Comme with us, Miss Jeds. Ça va être totally insane.
Notre ami Patrick Sébastien a annoncé qu'il laissait désormais une large place à ses imitations hommages dans son spectacle intitulé « Hommage et dessert ». Bonjour Patrick.
Ah, toi, je suis génial, Patrick. Tu m'en bouches quoi. Pas trop comment, tu m'as reconnu. Et tu m'appelles Patrick alors que je viens de passer 5 heures au maquillage.
Eh ben c'est parce que je vous connais bien, Patrick. J'ai tout de suite compris que vous étiez déguisé en Paul Prébois, un de vos imitateurs préférés. Oh, une de vos imitations cultes.
Et toi, t'as pas l'air d'avoir les yeux en face des trous. Paul Prébois, il a un béret. Alors, moi, j'ai une casquette. Casquette à carreaux. Et des bretelles.
Ah oui, pardon, d'accord. Alors là, vous êtes Bourville.
Oh non, crois-moi. Si j'étais Bourville, je t'aurais parlé de la tendresse.
Ah oui.
Je t'aurais dit que vivre sans tendresse, non, 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 tu pourrais pas. Et c'est normal que tu me reconnaisses pas, on la reconnaît plus, cette époque non plus, je vais te dire.
Écoutez, c'est vrai, alors là, je suis désolé, mais vraiment, je ne sais pas. Non.
Oh, tu sais, mon petit gars, tu sais pas. Si tu savais ce que je sais que tu sais, tu saurais qu'on sait jamais.
Ah oui.
Alors maintenant, tu comprends ou non?
Hélas, non, toujours pas. Ben, je donne ma langue au chat.
Ah ben, le chat, c'est un évile. J'ai joué avec la Simone. Tu jouais quand tu veux.
Ah mais ça y est, j'ai trouvé, vous êtes Jean Gabin.
Voilà.
Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous portez une jupe.
Ah oh putain, mais parce que je suis un Gabin déconstruit. Pour vivre avec son époque, ma Jade. Et juste après, dans mon hommage à mon Jeannot Gabin, oui, je chante les baloches. Allez, musique, c'est que de l'amour.
Bonjour Jack Lang. Inutile de vous demander pourquoi vous êtes là.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Oui.
En effet, je viens sans surprise vous parler de l'incorrigible Rachida, qui par son irrespect a une nouvelle fois embarrassé le petit monde de la culture, Arthur.
Et on a hâte, où a-t-elle sévi cette fois?
Au spectacle Deep Staria, la nouvelle création du chorégraphe anglais Wayne McGregor, donnée le week-end dernier dans le cadre du festival Montpellier Danse.
Ah oui.
Un spectacle présenté par le chorégraphe lui-même comme, je cite, une expérience de danse pure, hautement sensorielle et médiative, qui réfléchit à notre relation profonde avec le vide et notre propre mortalité. C'est chier, non?
En effet, ça donne envie.
Eh bien, ça n'a pas donné envie à Rachida, qui, en lisant le programme, s'est écrié à voix haute « Oh putain, ça a l'air chiant, j'aurais dû prendre mes mots fléchés. » Le spectacle n'avait pas encore commencé que les dents grinçaient déjà dans la salle.
Ah, peut-être a-t-elle été agréablement surprise pour une fois.
Que nenni, Virginie. 5 minutes seulement après le début du spectacle, elle s'est écriée, comme à son habitude, « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» avant de sortir un Tupperware de son sac à main Hermès.
Tupperware ? Oui. Alors là, vous me surprenez, ça lui ressemble pas du tout, ça, le Tupperware.
Je sais ce que je dis, j'étais dans la salle.
Ah, d'accord.
Elle a sorti son Tupperware en disant, à voix haute et bien distinctement, pour que tout le monde l'entende,
oui.
Je sens qu'on est parti pour trois plombes, ça va encore nous faire manger à minuit. Heureusement, j'ai pris mes œufs durs. Et elle s'est mise à écaler ses œufs.
Ça n'a pas dû plaire au public, ça. Mais,
en effet, Philippe Noisette, le fameux Philippe Noisette, responsable des pages denses des arts occuptibles,
oui.
A failli s'évanouir, indisposé par l'odeur de l'œuf. Et Rachida s'est fait un mal à plaisir de lui dire « Fais pas ta chochotte, noix de cajou !» D'habitude, t'aimes les trucs qui puent, il n'y a qu'à lire tes chroniques. Non mais, vous vous rendez compte.
Oui, je crois que je me rends très bien compte. Aïe, 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 aïe.
Et c'est pas tout, Nafissa Tou.
Oui.
Agacé par le bruit, Wayne McGregor lui-même, dans scène, est intervenu pour demander à Rachida de partir. Et vous savez ce qu'elle lui a répondu ?
Aïe, aïe, je rentre pire.
Toi, le rosbif. Baisse d'un ton, sinon je coupe tes subventions et t'iras danser dans le RER à Châtelet-les-Halles avec les Romano.
On la reconnaît bien là.
Oui,
oui, c'est tout.
Mais le comble de l'embarras a été atteint quand Thiago Rodriguez, le directeur portugais du Festival d'Avignon, qui était aussi dans la salle, a dit à Rachida qu'elle ferait mieux de démissionner. Elle lui a répondu « Pète un coup et calme-toi, Linda de Souza !» Mais d'un coup, calme-toi, Linda, tout ça, où je refile le festival d'Avignon à Bigard.
Ce serait une expérience.